Je pense que vous allez être très touchés par l'histoire qu'on va vous raconter. Vous savez, on parle souvent de deuil périnatal vécu par les femmes, la perte d'un enfant. Quand ça nous touche, évidemment, ça fait un grand vide et c'est extrêmement difficile de passer par-dessus. On entend rarement des hommes parler de la perte d'un enfant. Et pourtant, le deuil périnatal est vécu aussi par les hommes. Ils sont assez discrets à ce sujet-là. Peut-être aussi qu'on sous-estime leur peine. D'ailleurs, on va en parler. Il n'y a pas de congé forcément pour les hommes de la même façon que pour les femmes quand on perd un enfant. Mario Bergeron a perdu son fils Ulysse le 25 avril 2010. Son fils a vécu 21 heures et demie après l'accouchement. La demie est importante, il va nous dire pourquoi. Il aurait eu 6 ans ce mois-ci et son papa est venu nous raconter l'histoire de son fils parce qu'il en a fait vraiment une histoire qui va le porter pour longtemps et une histoire à laquelle vous pouvez participer. Mario Bergeron, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Ça va être une histoire interactive que vous allez vivre avec les gens parce que vous avez décidé de transposer l'histoire de votre fils qui a vécu 21 jours et demi. 21 heures et demie dans une histoire, un petit livre pour enfants. Oui. Pour enfants et pour parents parce que c'est le genre de livre qu'on peut lire à nos enfants. Ça s'intitule « Ulysse et Pénélope au zoo ». Vous avez plein d'histoires encore, plein d'idées pour en faire d'autres. Racontez-nous un peu comment vous est venue cette idée-là.
Ben, l'idée est venue, comme vous aviez dit, en 2010, moi et ma conjointe, on a eu un petit bébé, Ulysse, un garçon qui a vécu seulement 21 heures et demie. Donc, après cela, on a vécu le deuil périnatal, autant moi que ma conjointe. Ça n'a vraiment pas été facile, mais voyez-vous, quelques mois après la perte d'Ulysse, j'ai eu mes retrouvailles du secondaire.
Ouais.
Et là, ça a été décisif parce que j'ai rencontré un de mes anciens amis de l'époque, Denis Pépin, qui m'avait demandé si je dessinais toujours comme au secondaire. Je lui ai répondu non. Cette réponse-là m'a frappé comme un 2x4 avec des clous de 3 pouces d'en face, parce que je dessinais toujours à l'époque. Et je cherchais une façon d'honorer la mémoire de mon garçon, que ce soit par une fondation, mais j'arrivais pas à trouver quoi.
Mm-hmm.
Et là, ça m'a vraiment fait un déclic. Je me suis dit, pourquoi je prendrais pas mon talent pour faire des livres pour enfants et le faire vivre? Ça a été la première bougie. Après, j'ai eu une deuxième bougie. À l'époque, ma bonne amie Christine Carrier, avec qui je travaillais, une fois, j'y ai mentionné, j'ai dit « Oh, Christine, moi, si je gagnerais 1 million, là, j'arrêterais de travailler puis je ferais des livres pour enfants. » Ben, elle m'a dit carrément « Écoute, Mario, là, mon mari, il est fonctionnaire au gouvernement puis il écrit des livres. Ça se fait que tu n'as pas besoin de ça. »
Ah! Vous faites quoi, vous, dans la vie, Mario?
Moi, je suis concepteur graphique.
Ah ben, ça aide, comme on dit, quand même, un petit
peu. Ben, c'est sûr que j'ai un peu de talent. Ouais. Et après cette réponse-là, je me suis dit « Elle a vraiment raison. » Donc, petit à petit, je passais mes heures de lunch et je passais mes soirées petit à petit, à faire mon projet, brique par brique, paragraphe par paragraphe, page par page. Ça m'a enseigné qu'on dit toujours qu'on n'a pas le temps, mais ce n'est pas vrai, il suffit de prendre le temps.
Il suffit surtout d'être porté par un désir, par une mission.
D'avoir un projet.
Voilà,
j'avais trouvé mon projet.
Ouais.
Et au départ, ce projet-là, c'était un livre pour enfants pour lire à mes filles.
Ouais.
Donc,
parce que vous avez deux filles.
Oui, j'ai deux filles, Juliette et Rose. Et savez-vous, voulez-vous que je vous dise, Ulysse est né la même date que ma plus grande, Juliette. Il est né le 24 avril, comme Juliette. Et il est décédé le 25, le lendemain.
Il est mort de quoi, votre fils, Ulysse?
Ulysse souffrait d'une maladie congénitale. C'était une hernie du diaphragme droit. On ne sait pas pourquoi, mais d'après les pourcentages, le droit, il y a plus de décès que le gauche. Donc, ce qui fait que lui, quand il est arrivé au monde, l'hernie, ça veut dire que son diaphragme était percé, ses intestins ont monté, ça a tassé son poumon, ça a tassé son cœur, ce qui fait que son poumon droit n'était pas développé. C'est des bébés qui arrivent au monde et qu'ils ne peuvent pas respirer. Il faut toujours qu'ils soient intubés. Donc, sa vie il a été intubée et branchée sur les machines pendant 21 heures et demie. C'est ça, sa vie qu'il a vécue. Et à la fin, il nous a montré la voie, puis il a décidé de partir. Donc, à la fin, on l'a débranché, on l'a mis dans nos bras. Puis pendant une heure et demie, deux heures, on l'a bercé, puis on lui a donné, moi et ma conjointe, Annie, on lui a donné tout l'amour d'une vie dans ce moment-là. Ça a été ça, sa vie.
Vous l'avez bercé aussi?
Oui. Oui, on l'a bercé jusqu'à la fin.
Wow, c'est très touchant. J'ai vu la photo de votre bébé sur votre site et... Trop mignon. Moi, ça me fait pleurer, ces histoires-là, parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du deuil du père. Moi, j'ai perdu un enfant à 3 mois de gestation dans mon ventre, et puis une fausse couche, ça nous rentre dedans, ça nous fesse, on sait pas comment prendre ça. Moi, j'ai longtemps pensé que 3 mois, c'était pas beaucoup, fait que je pouvais pas me plaindre. Puis j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui ont perdu des enfants qui étaient morts-nés ou qui étaient morts comme le vôtre dans les jours qui ont suivi, dans les heures qui ont suivi, puis qui m'ont dit, regarde, Isabelle, ta perte est pas moins importante que la mienne, ce qui m'a fait beaucoup de bien.
Faut minimiser aucun deuil, que ce soit 3 mois, que ce soit 21 heures. Écoutez, moi, depuis que j'ai commencé ce projet-là, c'est vrai que, comme je parlais à votre recherchiste, il y a très peu d'hommes qui ont parlé, mais beaucoup de femmes ont partagé. Des femmes qui m'ont partagé, qui ont dit, écoute, Mario, mon garçon, il aurait eu 31 ans cette année. Puis à l'époque, là, j'ai pas pu faire mon deuil parce qu'on n'en parlait pas.
Est-ce qu'on le fait?
Ben moi, je pense que oui, moi, je l'ai fait, mon deuil. Mais voyez-vous, on a réussi, moi et ma conjointe, à faire notre deuil parce que, un, on était toujours en accord. On a décidé d'aller jusqu'au bout. On a décidé d'y donner sa chance à Ulysse. Parce qu'Ulysse, les docteurs nous disaient qu'il y avait de 50 à 70 de chances d'avoir une qualité de vie. Ils n'ont jamais mentionné qu'elle est décédée. Ça fait que nous, on lui a donné sa chance. On était jusqu'au bout. Et à la fin, écoutez... C'est lui qui a décidé qu'il partait parce que là, son taux d'oxygène baissait. Et là, les médecins nous ont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a décidé de partir.
Tout au long de la grossesse, vous saviez qu'il y avait un problème.
On l'a su à 16 semaines. On l'a su à 16 semaines qu'il y avait quelque chose. C'était juste avant les fêtes. Les médecins sont tous partis en vacances. Je me souviens, c'était congé-là. On a passé le temps des fêtes qu'on ne savait absolument rien. On savait qu'il y avait quelque chose. Et après ça, on l'a su, mais on a décidé quand même d'y donner une chance. Parce qu'on croyait qu'il pourrait avoir une qualité de vie. C'est évident que la première année de sa vie, il aurait passé à Sainte-Justine, à se faire opérer et tout, parce que c'est sûr. Et en plus de l'hernie, voyez-vous, il y avait d'autres choses aussi, mon garçon. Il y avait d'autres choses. Il y avait 2 pouces. Il y avait possibilité de scoliose. Il y avait possibilité qu'un de ses reins ne fonctionne pas. Peut-être quelque chose au cœur. Ulysse était très hypothéqué, voyez-vous. Ça fait que c'est pour ça, voyez-vous...
Ça vous a aussi, d'une certaine façon, peut-être aidé à le laisser partir. Le fait de savoir...
Ben, c'est pas nous qui a décidé, c'est lui qui a décidé. Ouais. Et voyez-vous, c'est quoi le rôle d'un parent?
Oui,
le rôle d'un
mais d'un père, surtout, parlez-moi du père.
Le rôle d'un père, d'une mère, d'un parent, c'est que ses enfants aient une qualité de vie.
Ouais.
Et mon fils a la plus belle qualité de vie qu'il a aujourd'hui. Écoutez, je peux pas demander mieux.
Ouais. Parce qu'il revit grâce à vous aussi, d'une certaine façon.
Il revit grâce à toute cette belle aventure. Écoutez, et tous les témoignages et tous les gens autour, écoutez, ça n'a pas de mots, ça me touche beaucoup, beaucoup.
Il faut qu'on dise à nos auditeurs, Mario Bergeron, il y a quelques années, vous m'avez confié ça tout à l'heure, puis je trouve ça intéressant de leur dire, il y a quelques années, on avait fait une émission sur le deuil périnatal. On en a fait quelques-unes là-dessus, parce que c'est un sujet, vous l'avez compris, qui me touche beaucoup. Puis je pense que les gens, maintenant, il y a la cérémonie des ballons blancs, où chaque ballon représente un enfant qui
par orphelin aussi.
Voilà. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui s'organisent parce qu'on a ce besoin de parler parce que la première chose qu'on pense c'est à pas le dire à personne puis à s'isoler.
Mais c'est parce que cet enfant-là a existé pour nous.
Même en conjoint. Hein?
Oui, oui. Écoutez, moi, il y a seulement moi, ma conjointe et la sage-femme qui l'ont vu en fin de compte. Personne d'autre l'a vu. Donc, c'est pour ça que c'était pas important pour moi de faire quelque chose. Et quand j'ai décidé de le faire vivre comme ça, et en plus, voyez-vous, il a vécu seulement 21 heures et demie, mais samedi midi, là, moi, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, il faut qu'on le fasse baptiser. Puis là, le prêtre est arrivé, puis il était pas trop, il avait pas trop le temps, mais j'ai insisté qu'il fallait le faire baptiser.
Le prêtre n'avait pas trop le temps?
Ben, il a dit, ça, je pourrais revenir demain, j'ai comme pas le temps, là, j'ai dit non, là. J'ai dit, c'est là qu'on fait ça. Là.
Bon, c'est pas parce qu'il y a trop de monde à l'église, toujours. Enfin, des fois, il y a des gens. Hein. Mais comme père, comment vous l'avez vécu par rapport à ce que votre femme a vécu?
Ben, comme père, voyez-vous, quand on est revenu à la maison, ma conjointe, c'est sûr qu'elle était atterrée par ça. Mais moi, j'avais ma petite Juliette de 3 ans qui me poussait dans le derrière. Ça, c'est la preuve que la vie a continué. La mort nous avait frappés, mais la vie continue. Donc, c'est sûr qu'en tant que père, j'ai dû me relever les manches et j'ai dû être comme un peu le support. Et nous, les pères, l'attachement se fait seulement à la naissance avec l'enfant, voyez-vous. Comparé à vous, où est-ce que c'est vraiment physique, ça se développe en vous, c'est très différent. Donc, là, j'ai comme vécu à moitié, mais par contre, j'avais une conjointe vraiment extraordinaire parce que ma conjointe a s'élevé et a dit, bon, ben là, c'est quoi qu'il faut faire pour passer au travers de ça? Là. Donc, on a été dans des groupes d'aide. On avait quelqu'un, on avait une infirmière qu'on suivait, qui, elle, forme les médecins pour le deuil périnatal. Et donc, on a pu partager beaucoup avec ces gens-là. Parce que quand on arrive dans un groupe d'aide où est-ce que tout le monde a vécu la même chose, là, on peut en parler pendant des heures. On n'est pas jugé.
Ouais,
parce qu'on peut en parler, voyez-vous, j'en parle encore après 6 ans, j'ai encore le goût d'en parler après 6 ans.
Ouais.
On peut en parler tout le temps, parce que ça, c'est, comme vous avez dit, c'est une perte que je vais porter toute ma vie, ça.
Ouais. Ah oui, tout à fait.
Donc, est-ce c'est comme les... ça un peu qu'on vit ça.
Et les autres hommes qui étaient avec vous, là, les autres gars dans ces groupes-là, ils parlaient, ils s'ouvrent plus facilement dans un groupe, peut-être?
Ils s'ouvraient moins que les femmes, c'est sûr.
Ouais.
Ils parlaient. Il y en avait certains qui parlaient, effectivement. Il y avait des femmes qui ne parlaient pas aussi. Il y avait des femmes qui étaient atterrées aussi. Dans ces groupes-là, c'était pas mal moitié-moitié, je
vous dirais. Que c'est parce que les hommes ont l'impression que... qui ont moins le droit de souffrir parce que la société donne plus le droit aux
mères? Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont moins le droit
ou...
de souffrir ou parce qu'on essaie de, comme, d'être solide pour que la conjointe s'accroche à nous. Et aussi, la chose qui était terrifiante, c'est que je voyais que ma conjointe, qu'elle souffrait, mais j'aurais voulu y enlever sa souffrance puis la mettre sur les épaules, mais je ne savais pas comment faire. Voyez-vous, on est désarmés, vraiment. Là.
Est-ce qu'il y a une façon?
C'est juste d'être là, c'est juste d'être présent, c'est juste d'écouter. C'est la seule chose qu'on peut faire, je vous dis, d'être présent, puis de supporter, puis de vivre ça ensemble en tant que couple.
Il y a même des gars, d'ailleurs, qui se font dire, regarde, occupe-toi de ta femme, elle a besoin de toi. Mais qui s'occupe du père qui vient de perdre son enfant?
C'est une très bonne question. Écoutez, je vous dirais, je ne sais pas. Voyez-vous, moi...
Qui s'est occupé de vous?
Je ne sais pas vraiment qui vous dire. J'ai comme, moi, dans le fond, j'ai pris mon énergie négative de mon deuil, puis je l'ai transformée en énergie positive pour pouvoir faire ce livre-là. Alors, qui m'a aidé? Bien, voyez-vous, on s'est fait des couples d'amis dans ces groupes-là. J'en partage beaucoup. Encore aujourd'hui, mon ami Alexandre, avec qui je parle en tant que père, il me comprend. Mais j'ai partagé, surtout avec ma conjointe, mais pas beaucoup autour, voyez-vous. Parce que les gens se sentent mal un peu.
Ouais.
Avec cette douleur-là. Ça les rend mal à l'aise, voyez-vous.
Les gens, on ne sait pas quoi faire avec la mort, de toute façon. Puis la mort d'un bébé, c'est épouvantable.
Mais ça fait partie de la vie, la mort, voyez-vous. Moi, j'ai vu la mort en face. Et moi, ça ne me dérange plus de mourir aujourd'hui parce que quand je vais mourir, je vais rejoindre mon fils. Je vais être avec mon fils. Donc, il me reste seulement maintenant à profiter de la vie que j'ai et à faire du mieux que je peux.
Vous avez... mon Dieu, que le temps passe vite en votre compagnie, Mario. Il faudrait qu'on aille à la pause. On va y aller, puis on va dire aussi aux auditeurs après comment ils peuvent participer, parce que je disais que les auditeurs peuvent participer à cette mission que vous avez.
Oui.
Vous allez tout nous expliquer ça après la pause. Et puis, bien sûr, l'occasion est trop belle pour que je la donne pas aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont vécu ça, surtout les papas. Si vous avez pas eu l'occasion de partager votre peine, nous dire comment vous l'avez vécu, le deuil de votre enfant. Des mères aussi, comment vous avez vécu ça avec votre conjoint? En avez-vous parlé ensemble? Vous êtes-vous permis d'avoir des discussions là-dessus? L'avez-vous vécu tout seul? Est-ce que c'est difficile? Des fois, on ne sait pas. Moi, je l'ai vécu, puis j'avais l'impression que mon chum le vivait moins que moi. Puis finalement, on s'en est parlé, puis je me suis rendu compte que sa peine était aussi grosse que la mienne. C'est très difficile à vivre, très difficile à vivre.
Sa peine était intérieure.
Oui, oui, beaucoup plus intérieure. Puis c'était, il m'a dit, je ne voulais pas te faire de peine plus que tu en avais déjà.
Et voilà.
Ouais. 514-790-9850, sans frais de partout, faites le 1-866-790-9850. On parle du deuil périnatal, le fait de perdre un enfant, comment ce deuil-là peut être vécu par les hommes. On n'a pas souvent l'occasion de les entendre là-dessus, alors c'est leur moment. À tout de suite. Bon, là, l'animatrice a de la misère à contenir ses larmes. Moi, c'est le genre de sujet qui vient beaucoup me chercher, le deuil périnatal vu par les pères. C'est notre sujet de ce matin, mais forcément, ça va chercher les mères aussi, parce qu'on vit ça en couple, hein, Mario Bergeron et ce papa qui a décidé de prendre l'énergie négative, je vous paraphrase, de reprendre l'énergie négative de votre peine puis de dire, je vais en faire une belle énergie puis je vais continuer de faire vivre mon fils qui a vécu 21 heures et demie, qui a beaucoup souffert parce qu'il était intubé, mais je vais prendre cette énergie-là, puis je vais la partager pour permettre à des gens de témoigner. Nous avons justement des hommes au bout du fil. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Racontez-moi votre histoire.
Ben moi j'ai eu des jumelles à 24 semaines. Puis j'ai eu une de mes filles qui était atteinte de la trisomie.
Ouais.
Puis, il a fallu que je prenne des décisions pour qu'elle souffre parce que elle aurait peut-être, excusez-moi, j'ai encore la misère.
Ouais, je comprends tellement.
Elle aurait pas survécu plus que environ 7 à 10 jours.
Mm-hmm.
Puis c'est ça, j'ai pris la décision. Ça fait 5 ans, puis j'ai encore la misère aujourd'hui. Son urne est à la maison, puis il n'y a pas un soir que je ne vais pas lui dire bonne nuit, puis
Bravo.
C'est...
Bravo. Écoutez, je sympathise beaucoup avec vous, mais je peux juste vous dire une chose. Écoutez, votre petite fille, où est-ce qu'elle est présentement, là? Elle est bien, elle ne souffre pas. C'est comme mon garçon. Alors, écoutez, accrochez-vous là-dessus. En tant que parent, c'est notre rôle que nos enfants ne souffrent pas, que nos enfants soient bien. Et votre petite fille aujourd'hui, là, est très bien, puis je suis sûr qu'elle est fière de vous.
C'est ça, j'ai de la misère parce que le monde autour ne comprenne pas. Je pense que tant qu'ils n'ont pas vécu ça, je pense que le monde ne peut pas comprendre. Mais perdre un enfant, c'est la chose la plus terrible.
Non, personne. Moi, je suis convaincu comme vous aussi. On peut sympathiser, mais les gens ne peuvent pas comprendre tant qu'ils n'ont pas perdu un enfant. Écoutez, ça, je vous comprends là-dessus. On s'entend très bien.
Ben, c'est pour ça que tu sais, tantôt, quand vous avez dit « j'ai pas peur de mourir, puis je vais aller la rejoindre », mais c'est ce que je pense aujourd'hui. C'est pas mal la même affaire.
Ben, écoute, je sympathise avec vous grandement.
Merci beaucoup, Stéphane, de votre témoignage. Merci bien. Bonjour, Michel.
Oui, moi, je pourrais dire que j'ai vécu une expérience comme ça il y a 30 ans,
ouais.
En 1987. Et puis, on n'oublie jamais ça. Puis, moi, ce que je m'étais donné comme truc à ce moment-là, c'est que parce que le bébé, en fait, il est né à 26 semaines, puis il a vécu 8 heures. Il était très hypothéqué au niveau de sa santé, là, étant donné qu'il était ses poumons n'étaient pas complètement formés. Et puis là, à ce moment-là, ce que j'ai fait, curieusement, on pensait d'avoir une petite fille. Puis là, 3 semaines avant, j'avais comme un feeling qu'on aurait un petit gars. Puis là, à ce moment-là, j'avais connu un gars qui s'appelait Gabriel. Puis là, j'ai appelé le petit gars Gabriel quand il est né. Et puis, on aurait eu le temps de le faire baptiser aussi. Et puis là, quand il est arrivé, après le manque d'oxygène, après 8 heures, et on a dû le laisser partir, arrêter de le pomper à la main. Puis là, les docteurs venaient à tout bout de champ pour rétablir son taux d'oxygène. Puis finalement, moi, j'ai donné à cet enfant-là une mission de la laisser partir. Étant donné que Gabriel, c'est le nom d'un ange, ben j'ai jugé que c'était probablement un ange. Fait que j'avais dit qu'il était sa mission, c'était à l'hôpital Juve à l'époque, de protéger les autres enfants qui seront malades à venir. Puis j'avais fait un petit mot comme j'avais affiché là-bas. Mais j'ai jamais oublié quand même. J'ai été pendant plusieurs années que la toune, moi je suis pas un fan de Céline Dion, mais la toune, par exemple, de Vol, que Céline Dion avait composé, ça me faisait toujours penser à cet enfant-là.
Effectivement. Merci, Michel. Merci beaucoup. Suzanne, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Je suis encore très émotive. Après 44 ans que c'est un incident comme ça m'est arrivé, j'ai accouché par césarienne d'une enfant qui pesait à peine 3 livres et puis qui avait une trisomie 18 qui avait été transférée à l'hôpital Sainte-Justine. Et puis de là, quand j'ai voulu aller la voir pour la prendre, on m'a jamais permis d'y toucher. Parce qu'on disait qu'aussitôt qu'on lui touchait, elle criait. Alors, moi, à un moment donné, j'ai demandé de la débrancher parce qu'ils nous ont dit qu'elle ne survivrait pas. Mais ils l'ont engraissée par gavage jusqu'à temps qu'elle pèse 5 livres pour ensuite nous dire qu'ils nous ont téléphoné pour nous dire qu'elle devait s'en aller dans un genre de centre où il y avait des enfants qui étaient handicapés, comme notre fille. Maintenant, la journée même on a reçu le téléphone pour aller visiter, ils nous ont rappelé plus tard pour nous dire qu'elle était décédée. Maintenant, moi, à la suite de ça, puis même, il y a même l'incident du baptême ils m'ont téléphoné pour me demander si on voulait qu'elle soit baptisée. J'ai dit bien sûr.
Et votre conjoint était avec vous là-dedans, Suzanne?
Oui, mon conjoint, il était assez distant, madame. Pour lui, c'était un gros échec.
Ah, ouais, c'est ça.
Il essayait de trouver qu'il pouvait être coupable. Pourtant, il est médecin. J'ai rien compris là-dedans.
Ouais,
je vous dis que depuis, j'ai divorcé. Plusieurs années plus tard, mais quand même.
Ouais, souvent, merci Suzanne de votre témoignage, souvent on voit ça, la mort d'un enfant dans un couple, ça peut avoir ce genre d'impact-là aussi, les conjoints qui ne sont pas forcément à la même place, hein, Mario?
40% des couples se séparent quand un enfant est à l'hôpital la première année.
Ouais.
Ils nous avaient avertis à Sainte-Justine.
Incroyable, hein? Marc, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y.
Nous autres, on a perdu Alexandra en 95, après 10 semaines de la mort subite. Puis, vous parliez tantôt de support que les hommes ont.
Oui.
Moi, je trouve que ma conjointe, elle lisait beaucoup ce sujet. Puis,
oui.
Elle échangeait beaucoup avec des amis à elle. Mais j'ai pas trouvé cet échange-là du côté homme. Les hommes savent pas quoi dire.
Non.
Tu sais, puis je les comprends un peu, je me mets à leur place, moi non plus, je saurais pas quoi dire. Mais quand ça t'arrive, t'aimerais avoir un peu de réconfort de ta race, tu sais, de ton monde. Mais vraiment, c'est le psychologue qui m'a le plus aidé dans tout ça.
Ah oui, vous avez pu parler à un psy.
Ouais. Ouais, bon, on est allé, moi et ma conjointe, puis après ça, on a fait plein de journées au centre Jérémy Ril, plein de rencontres avec d'autres parents qui ont vécu la même chose. C'est ça qui nous a sorti de
voilà, toi, c'est ça que vous conseillez, j'imagine, Marc, d'en parler un peu. C'est ce que Mario nous disait aussi.
Oui, absolument, absolument. Puis je crois aussi ce que Mario disait, que moi aussi, je m'en vais rejoindre ma petite fille quand je vais mourir.
Oui. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien. Je disais tout à l'heure que les gens peuvent participer, Mario Bergeron, à votre belle mission.
À l'aventure d'Ulysse.
Voilà, l'aventure d'Ulysse. Ulysse et Pénélope au zoo. Vous m'avez apporté un petit livre. Et puis là, ben, il y a toute la suite des aventures. Il faut dire que les gens peuvent participer à cette aventure-là en allant sur le site internet Ulysse et Pénélope. ulysseetpenelope.com. On va mettre ces infos sur notre site. C'est une campagne Kickstarter que vous avez faite, là.
Oui, effectivement, j'ai débuté, voyez-vous, après avoir terminé mon livre, j'ai trouvé des façons de pouvoir m'auto-publier et j'ai parti ma campagne Kickstarter parce que j'avais approché des éditeurs et ça n'avait pas fonctionné, mais j'ai décidé...
Les éditeurs n'avaient pas aimé l'idée?
Pour différentes raisons, ça ne fonctionnait pas. Écoutez, on ne sait jamais, c'est peut-être pas le bon moment.
Ouais.
Et donc, j'ai décidé de faire une campagne de sociofinancement, une campagne de Kickstarter pour aller chercher mon budget pour pouvoir m'auto-publier. Et voyez-vous, jusqu'à maintenant, ça réussit. Donc, si les gens veulent participer, veulent contribuer, ulysseetpenelope.com, puis ils vont pouvoir contribuer à cette belle aventure parce que c'est juste le début, là. Parce que c'est le premier livre, il y en a un deuxième livre en construction, il y en a un troisième, puis il va peut-être en avoir un quatrième. Mon fils va continuer à vivre.
Ouais, le petit Ulysse. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ça.
C'est moi qui vous remercie, Isabelle.
Merci vraiment. Mario Bergeron, donc, qui a vécu le deuil de son fils décédé à 21h30 après sa naissance, mais qui en a fait une belle histoire qui se poursuit. Et vous pouvez y participer. Vous allez sur le site de Kickstarter pour donner ce que vous voulez pour que la suite...
Allez sur ulysseetpenelope.com et là,
voilà,
vous allez avoir les
là.
Lignes
voilà.
directes.
Voilà. Et puis, vous pourrez voir les personnages très bien dessinés.
Des coloriages aussi pour les enfants.
Oui, c'est vraiment chouette. Vous avez fait tout ça sur Internet grâce à un site.
J'ai tout fait ça moi-même. J'ai tout
incroyable,
fait ça.
Incroyable. C'est magnifique. Merci beaucoup, Mario.
C'est moi qui vous remercie.
On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je vais vous demander si vous êtes sceptique par rapport à cette campagne lancée par IGA où ils nous promettent de baisser les prix des aliments de plus de 8500 produits alimentaires quand vous allez faire votre épicerie. Est-ce que vous y croyez? À tout de suite, tout le monde.